Vous allez bien? Très heureux de vous retrouver. L'automne n'est pas commencé, je pense, encore. Hein? C'est encore l'été. En tout cas, quelle belle fin d'été. La température est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment agréable. Et j'aimerais commencer en offrant mes sympathies à Marielle Cubédu. Je ne sais pas si Marielle est là, je ne l'ai pas vue. Mais à Marielle, toute la famille Cubédu, sa maman est décédée. Et sa maman était une dame qui m'avait enseigné à l'école du dimanche quand j'étais haut comme ça. Et donc, toutes nos sympathies, que Dieu puisse vraiment consoler toute la famille. On va prier dans un instant pour toi et la famille. L'Église cette année, l'Église de l'Espoir, atteint ses 65 ans d'existence. C'est pas rien au Québec. 65 ans d'existence pour une Église évangélique, c'est plutôt rare. Et donc, c'est vraiment intéressant. Il y a 5 ans, on avait fêté le 60e. Plusieurs étaient là, puis déjà, on est rendu à 65 ans. C'est quand même assez incroyable. 65 ans, bon, moi, je suis rendu à 53, donc 65 ans, pour moi, c'est la maturité, là, tu sais, c'est pas la retraite, là, tout est relatif, hein? Mais peut-être 65 ans pour une église, c'est peut-être ça, c'est peut-être la maturité. Notre église, en 65 ans, a réalisé beaucoup de choses, a vu un grand nombre d'hommes et de femmes venir à la connaissance de Jésus-Christ, devenir chrétien ici à l'Église, grandir, se marier, avoir des enfants. Certains ont été formés pour le champ missionnaire, ont été équipés. L'Église a implanté des églises, a aidé des églises dans leur réimplantation quand les églises avaient de la difficulté. Plusieurs frères et sœurs au Québec, qui ne sont pas de notre assemblée, au Canada et même à l'étranger, sont encouragés par l'Église de l'Espoir. Par ce que Dieu est en train de faire ici. On a de quoi être fiers. 65 ans. C'est quand même beau. Puis l'Église est unie puis est en la joie. Puis là, on commence, vous allez voir où je m'en vais avec ça, on commence une série où on va étudier ensemble 1 Corinthiens. Une Église qui était très fière, qui est très, très, très fière de ses réalisations, de ses dons, de ses talents, de son potentiel, de ses ministères. Et puis, Paul, qui a écrit la lettre de 1 Corinthiens, c'est l'implanteur de cette église-là. Un peu comme notre Éric Ricard, Marie-Michel, qui sont en train d'implanter une église à Boissard. Paul avait implanté cette église-là et honnêtement, il la connaissait sous tous ses angles. Il y avait plusieurs préoccupations. Parce que même si cette église était riche en bénédictions, en dons, en talents, en prédicateurs, en enseignants de la parole de Dieu, disons qu'il y avait place à amélioration. En fait, si vous connaissez la première lettre aux Corinthiens, c'est comme la lettre scandaleuse du Nouveau Testament. Tu dis, c'est pas possible qu'une assemblée se dise chrétienne puis tombe aussi bas. Et moi, je prétends que bien que notre assemblée ait 65 ans cette année, un paquet de réalisations incroyables, je pense qu'on a des choses à apprendre de cette Église-là pour grandir en maturité davantage, chacun d'entre nous. Et comme vous allez le voir à travers la lettre, parce qu'on va parler, de Bible, on va parler de Dieu, on va parler beaucoup de Jésus-Christ, mais on va parler aussi d'enjeux éthiques. Comment est-ce qu'on se comporte, les choix moraux qu'on a à faire. Et l'Église est toujours là, à côté de la culture, du monde en général. Elle est appelée à être différente de la culture, sans jamais aller se cacher, au contraire, en désirant briller. Cette lettre-là va nous mettre au défi, les amis. Et ma prière, c'est qu'à travers ça, à travers cette lettre, on puisse grandir davantage encore en maturité et que l'Église de l'Espoir soit debout dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, jusqu'au retour du Seigneur et plus mature encore pour la gloire de Dieu. On va aller ensemble dans la prière, on va écouter la lecture de la parole de Dieu et ensuite on va plonger dans cette lettre qui est vraiment extraordinaire. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. Seigneur, moi je sais, ceux qui connaissent 1 Corinthiens savent, ça va être troublant par moment de lire cette lettre-là. Mais Seigneur, humblement, je veux reconnaître que si toute ma vie avait été exposée publiquement, ce serait troublant aussi, parce qu'on lutte, on est faible, on pêche. Si l'histoire de cette Église-ci, l'espoir, est étudiée page par page, il y a tellement de moments qui sont peu glorieux. Et pourtant, Seigneur, tu nous dis que tu aimes ton Église. C'est toi qui l'as créée, l'Église, en donnant ta vie. C'est toi qui sauves en nous appelant à toi, Seigneur. Alors humblement, on vient devant toi ce matin parce qu'on t'aime, Seigneur, parce qu'on aime ton Église et on veut être cette Église comme tu la désires, Seigneur. Alors, on te prie ce matin de venir élever ton nom dans nos cœurs, dans notre assemblée. Et Seigneur, si quelques-uns sont désenchantés de l'Église, viens, Seigneur, parler à leur cœur de ton épouse que tu chéris, que tu aimes tendrement, et de te voir aimer cette Église de Corinthe. C'est dire, Seigneur, combien il y a de la place dans ton cœur pour aimer, parce que cette Église a tellement de lacunes, se croyant si riche et si grande. Viens nous parler, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Bon matin. Le passage de ce matin est lu dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 31, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 31. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur.
Merci, Josiane. Comme je le mentionnais, Paul est l'implantant de cette église-là. Il la connaît très bien. C'est lui qui l'a implantée. Il la porte sur son cœur. Un peu de la même manière qu'Éric est en train d'implanter une église à Brossard, que Élisée et Marlène Beau ont quitté la France il y a plus de 65 ans pour implanter l'église ici. Paul la porte dans son cœur et il a à cœur de la voir grandir en sagesse, de la voir devenir plus mature. Et il y a beaucoup de place à ce qu'elle grandisse. Parce que cette église-là a perdu son focus, elle a perdu de vue l'essentiel du christianisme. Elle a perdu de vue la croix de Jésus-Christ. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Toute la richesse et la puissance de l'Église ne se trouvera jamais dans ses prédicateurs, ses programmes, ses ministères, mais seulement et uniquement en Jésus-Christ. Toute la richesse et la puissance de l'Église ne se trouvera jamais dans ses prédicateurs, ses programmes, ses ministères, mais seulement et uniquement en Jésus-Christ. Et vous allez voir que ce n'est pas théorique ce que je suis en train de dire là. C'est très concret. Premièrement, sainte en Jésus, immature en elle-même. Paul commence la lettre en saluant les chrétiens de la ville de Corinthe. C'est une lettre qui est écrite à une église. Et il dit « à l'Église de Dieu », si vous regardez le verset 2, « à l'Église de Dieu qui est à Corinthe », donc l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, littéralement, « à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Fait que Paul salue l'Église, mais en saluant l'Église, il salue les individus qui composent l'Église. Il s'adresse à toute l'Assemblée, mais il s'adresse aux individus. Toute l'Assemblée et ceux qui la composent, et il va plus loin que ça, il va même saluer ceux qui sont partout dans le monde qui croient en Jésus-Christ. Donc, il salue à la fin tous les chrétiens. L'Église et tous ceux qui la composent. Paul s'adresse à l'Assemblée, à tous les membres. C'est un message pour notre Église, comme Assemblée, mais pour toi, comme individu, pour ton foyer, ta maison, ton couple, ton témoignage au travail. Parce que ce dont on parle ce matin, ça a des implications dans ta vie personnelle. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la lettre, je vous demande de garder ça à l'esprit. On parle à l'Église. L'Église qui est une culture propre. Quand il y a des gens qui viennent ici, qui nous rencontrent dans nos groupes connexions, qui nous voient lorsqu'on est en train de servir, ils découvrent une personne qui est l'Église de l'Espoir. Cette personne-là a un témoignage. Mais après ça, dans chacun de nos foyers, dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos cœurs, sur nos lieux de travail, dans nos relations à l'école, au cégep, à l'université, on porte encore un témoignage. Paul s'adresse à l'Église dans son ensemble et individuellement. Mais voici ce qu'il dit. Il dit « elle est sainte ». Et peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce langage-là. C'est un langage très commun dans la Bible, super important. Et c'est génial que Paul le place au début de la lettre. « À l'Église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. » De quoi il parle? Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la lettre, on va découvrir une Église qui, tu sais, si tu as en tête « saint » dans le sens de « parfait », cette Église-là est peut-être la moins sainte des Églises de tout le Nouveau Testament. Après, il faut aller dans l'Apocalypse pour trouver pire. Donc, si c'est ça que tu as à l'esprit, ça ne fonctionne pas. L'Église n'est pas sainte du tout. Il y a des péchés dans l'Église qui sont scandaleux. Je veux dire, on parle d'inceste dans l'Église, connu de l'Église. Ça n'a aucun bon sens. De quoi il parle? Bien, lorsque Paul utilise ce mot-là, le mot grec qui est là, ce qu'il veut dire premièrement et avant tout, c'est « mis à part ». Lorsque Paul s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, il s'adresse à ceux qui, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ont été mis à part pour la gloire de Dieu, sont consacrés, ont un appel différent. Il va même dire « saint par vocation ». Une vocation, c'est quoi un appel? C'est quoi ta vocation? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton appel? Mais une vocation, c'est ça. Donc, Paul va dire à ceux qui sont mis à part parce qu'ils ont été appelés par Dieu. Vois-tu, si tu es chrétien comme moi, tu n'as pas été le plus grand agent dans cette décision-là. Tu avais un rôle à jouer. Il a fallu que tu acceptes l'appel de Dieu. Il a fallu que tu répondes. Bien sûr! Mais commence à annoncer l'Évangile à des gens que tu estimes meilleurs que toi. On a tous des gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens, puis on dit, aïe, aïe, si tous les chrétiens pouvaient être aussi bien que cette personne-là, ce serait génial. On en connaît, n'est-ce pas? Des gens, on dit, tu sais, on sait qu'ils sont pécheurs, donc on ne dira pas qu'ils sont bons comme Dieu est bon, mais dire, quand tu compares à la moyenne des cochons, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons, tu sais. Puis là, tu leur annonces l'Évangile, tout ça, c'est merveilleux, je veux dire, c'est le plus beau des messages. Ils trouvent ça beau, ça ne les intéresse pas. Là, tu réalises, OK, je pense que Dieu avait quelque chose à voir dans ma conversion. Dieu joue un rôle. Saint par vocation, ça veut dire tout simplement consacré en Jésus-Christ. Et Paul est en train de dire, donc, cette Église-là est appelée à être différente. Elle est consacrée à Dieu. Elle va vivre dans le monde, mais différemment du monde. Parce qu'elle est consacrée à Dieu. Elle a été mise à part simplement par sa foi en Jésus-Christ. Le but de ta vie, de ma vie, de notre vie comme Église, est déterminé, est orienté, devrait prioriser le fait que j'ai été appelé en Jésus-Christ. J'ai été mise à part, consacré, dédié à la gloire de Dieu. Amen? C'est ça que ça veut dire, saint. Et donc, Paul est en train de dire, écoute, c'est fait, c'est accompli. Je le sais que tu es mis à part. Pourquoi? Parce que tu as cru dans l'Évangile. Tu as été mis à part en Jésus-Christ. Donc, si je vous posais la question, et je ne le ferai pas comme ça, levez pas la main, s'il vous plaît, mais si je posais la question, qui est chrétien ici, et que tout le monde levait la main, bien, ça veut dire que vous êtes tous consacrés. Tu le sais parce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a résonné dans ton cœur. Je disais un peu plus tôt dans le cours à 9h, je disais, ce message-là qui est scandaleux, offensant pour tant de gens, pour toi, il est devenu mélodieux. C'est peut-être pas la première fois que tu l'as entendu qui est devenu mélodieux, c'est peut-être la centième fois. Peu importe, si tu es chrétien, ce message-là, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est devenu une mélodie à ton oreille. C'est devenu beau, attirant. Tu te dis, oui, je me reconnais pécheur, déchu. Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Oui, je veux le pardon de Dieu. Oui, je veux entrer dans la famille de Dieu grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Mais par le fait même, parce que ce message-là est devenu mélodieux à ton oreille, tu as été mis à part. Tu es consacré. Tu n'as rien fait encore. Tu comprends, ta performance comme chrétien, c'est pas important à ce point-ci. Mais pas du tout. Tu as cru dans l'Évangile, tu es mis à part. Tu as une nouvelle vocation. Tu as un nouvel appel dans ta vie. Tu es consacré au service de Dieu, à la gloire de Dieu. Et donc, Paul s'adresse à cette église-là en disant, écoutez, il faut qu'on se parle des vraies affaires. J'entends toutes sortes de choses. C'est tellement complexe qu'après la première lettre, Paul va vouloir visiter l'église et l'église va refuser sa visite. Lorsque tu étudies 2 Corinthiens puis 1 Corinthien, tu comprends qu'il y a quelque chose qui s'est écrit entre les deux, puis il y a un moment où Paul a essayé d'aller reprendre l'église elle-même et l'église a refusé que son implanteur vienne le visiter pour le reprendre. Ça n'allait pas bien. C'est pas une église en santé. Mais Paul commence en disant, tous ceux qui sont sanctifiés, consacrés au service de Dieu. Parce que vois-tu, ta consécration à Dieu, ton appel à servir Dieu, ne dépend pas de tes performances comme chrétien, de ta sainteté factuelle, de tes comportements de tous les jours, de tes choix éthiques, de tes choix moraux, de la manière que ta vie se comporte. Ta consécration à Dieu dépend avant tout de ta réponse à l'Évangile. Et donc, si l'Évangile est devenu un appel pour toi, tu dis, j'ai besoin de cette grâce-là. J'accepte le sacrifice de Christ à la croix pour moi. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Oui, amen. Quel que soit l'état de ta vie chrétienne actuellement, tu es saint. Tu es consacré. Et ce que Paul ensuite va développer tout au long de la lettre, c'est, viens, entre maintenant dans ton appel. Poursuis ton appel. Tu ne trouveras pas de bonheur à l'extérieur de cet appel-là parce que le message de l'Évangile est devenu une mélodie à ton cœur. Tu es passé dans un autre paradigme. La vie est différente. Tu es appelé à être différent à ton tour. Et ça nous amène à nous examiner, à se poser des questions, à voir si effectivement notre vie est différente. Paul est tellement convaincu que cette Église-là est consacrée à Dieu qu'il va dire au verset 8 et 9, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. » Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Entre guillemets, vous pas vraiment, mais lui est fidèle. C'est ça qu'il va développer, là. D'accord? On est au début de la lettre. Il dit, Dieu vous a consacré, je sais, vous avez cru dans l'Évangile, vous avez un appel sur votre vie, et Dieu va être fidèle, il va terminer le travail. Vous allez voir, comme il vous a appelé, il va vous garder jusqu'à la fin. Et donc, on est appelé à se poser des questions, à savoir si on vit conséquemment à notre appel, si on vit comme des gens qui sont consacrés. Parce que voyez-vous, cette Église-là était sainte en Jésus-Christ à cause de sa foi en Christ, mais pourtant elle était plutôt immature, sans sagesse, orgueilleuse en elle-même. Regardez le verset 10, on est encore au début de la lettre, on commence à peine à étudier. « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » Verset 11, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. » Verset 12, « Car mes frères, j'ai appris qu'il y a des rivalités au milieu de vous. » Verset 12, « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. » Cette église-là avait une fierté mal placée. Elle était fière de tous ses dons, tous ses talents. J'ai pas lu l'entièreté du passage, mais Paul va dire, « Je me réjouis parce que vous avez été vraiment doués. Dieu vous a donné tous les dons nécessaires. Vous avez tout reçu. » Mais d'autre part, j'entends parler des divisions au milieu de vous. J'entends dire que dans votre église, il y a des cliques. On se réclame de tel ou tel prédicateur, de tel ou tel enseignant. Vous êtes fiers de tous les dons que vous avez reçus. Vous êtes fiers de votre histoire. Cette église-là n'avait pas 65 ans. On est bien meilleurs qu'eux. Hey. Vous êtes fiers de votre histoire. Et pourtant, j'entends qu'il y a des divisions au milieu de vous. Ils se croient riches et pourtant, ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils sont consacrés en Jésus-Christ et pourtant immatures dans les faits. Et vous allez voir, ça, là, des divisions comme ça, c'est de la petite bière, là. Ça, on va aller beaucoup plus loin que ça. Là. On va s'enfoncer profondément dans la débauche qu'une église peut atteindre. C'est scandaleux. Ils étaient fiers de leurs enseignants, de leurs prédicateurs, de leur ministère, de leur capacité. Ils se réclamaient, « Oh, moi, je suis de lui, moi, je suis de lui. » Puis dans un sens, ça se comprend. On n'est pas indifférent au style, la manière que les choses se font. On a tous des prédicateurs qui comme font résonner quelque chose de plus en nous. On a visité une église, puis on dit « Ah, si mon église pouvait faire ça! » On a découvert un ministère à tel endroit, « Wow, ça c'est génial! » À quelque part, c'est normal. En fait, Paul va dire que la puissance ne se trouve pas dans la qualité oratoire, mais Paul était capable d'être Paul était un excellent orateur. Si vous connaissez le livre des Actes, lorsque Paul se trouve à Athènes, puis il est dans l'aéropage, mes amis, c'est un chef-d'œuvre en termes de qualité oratoire. C'est génial. Donc, c'est normal d'aimer, d'avoir des préférences, de dire, « Ah, quand lui prêche, là, ça me parle. Quand je lis le livre de tel auteur chrétien, écoute, ça fait vibrer quelque chose en moi. Moi, la louange, là, quand c'est lui qui est à louange, quand c'est ce style-là, c'est normal. On est des êtres humains. » Mais Paul est en train de dire, se réclamer de tel ou tel prédicateur, de telle ou telle église, de tel ou tel style, ça devient à un certain moment totalement pathétique parce que la substance n'est pas là. C'est pas là qu'il y a la puissance. Pas dans la qualité oratoire, pas dans le style de l'église, pas dans son bâtiment, pas dans ses programmes, pas dans son look, dans son apparence, pas dans sa musique. C'est pas là qu'il y a la puissance. Et pourtant, cette église-là est en train de se diviser. Un peu comme si on entendait des chrétiens évangéliques dire « Ah, moi, je suis de telle ou telle église. Tu devrais venir à mon église, tu découvrirais quelque chose d'extraordinaire. » Voyez-vous, juste à Longueuil, il y a plusieurs églises qui annoncent l'Évangile. Et on est appelé à se réjouir de toutes les églises qui annoncent l'Évangile de Jésus-Christ. Absolument! Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de divergence, ce n'est pas qu'il n'y a pas de différence. Ce n'est même pas qu'il n'y a pas de différence importante. Il y a des points sur lesquels je ne serais peut-être vraiment pas d'accord avec telle ou telle position doctrinale. Mais si j'en suis à me faire un point d'honneur, d'orgueil, de dire telle ou telle église, alors que ces assemblées prêchent Jésus-Christ, Paul dit ça, c'est une marque d'immaturité profonde. D'immaturité profonde. Et pourtant, c'est fort en nous. C'est fort en nous, ce besoin de s'identifier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis en train de suivre actuellement la dernière télésérie, la plus grande cote d'écoute actuellement au monde, les élections américaines. Oubliez Netflix, oubliez Prime Video, oubliez tout ça. Je veux dire, tu sais, quand la réalité dépasse la fiction, je veux dire, j'imagine que Netflix perd toutes ses cotes d'écoute. La télésérie la plus captivante, c'est les élections américaines. C'est un show incroyable. Je vous dis, les Américains ont pris Hollywood puis l'ont amené dans la réalité. Non, mais c'est vrai, sérieux. C'est des rebondissements sans cesse, tentatives de meurtre, tout le kit. C'est complètement malade, cette histoire-là. Et là, je suis ça attentivement, puis je regarde ça, puis faites-vous-en pas, j'irai pas dans la politique ce matin. Mais le point, c'est ceci. C'est que ce qui me frappe, c'est que c'est complètement émotif. Et c'est « moi, je suis de lui, moi, je suis de elle », agressivement contre les autres. Ça se traite de communiste, de fasciste. Les États-Unis vont survivre aux prochaines élections, je veux juste vous le dire, là. Si vous étudiez l'histoire des présidents américains, on a déjà tout vu. OK, on a tout vu, des scandales dans la Maison-Blanche, dans le Oval Office. On a tout vu, des présidents comme Nixon. On a tout vu avec les États-Unis. Ils vont survivre aux prochaines élections. Faites-vous-en pas, c'est pas la fin du monde. Et pourtant, si on les écoute, moi je suis de lui, moi je suis de lui, c'est la fin des États-Unis, c'est la fin de la démocratie. Si mon candidat, ma candidate n'est pas élue, mais c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a aucune substance. Les écoutes, c'est que des émotions. Là, tu te dis, c'est quoi le programme? Je veux juste comprendre. C'est après les émotions, là, après, OK, le monde, tu sais, après les élections américaines, c'est Armageddon, c'est la fin du monde. OK, mais après, c'est quoi la substance? Il n'y a pas de substance. C'est tentant pour nous de faire ça. C'est tentant pour nous de rentrer dans cette folie-là, ce désir-là, même chez les évangéliques. Ce qui m'attriste le plus, c'est que j'assiste à des débats de cette nature-là entre pasteurs, entre chrétiens évangéliques qui tous prêchent l'Évangile. Et je ne suis pas en train de dire que tous les prédicateurs prêchent l'Évangile. Non, il y a des prédicateurs qui prêchent un faux Évangile. Mais parmi tous ceux qui prêchent l'Évangile, on peut trouver des rivalités semblables. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas vivre ça ici, mais au contraire de prier pour toutes les églises du Québec afin que l'Évangile brille et à l'intérieur de l'Église. Voyez-vous, cette église-là qui se croyait très, très, très mature, qui pensait qu'il avait l'affaire, qui était rendu, qui avait tous les dons, manque en fait beaucoup de maturité. Et ce que Paul va faire, c'est qu'il va les ramener à la base. Paul va dire, les amis, avec tous vos dons, toutes vos capacités, tous vos ministères, tout votre potentiel, vous avez perdu le centre du christianisme de vue. Votre focus est complètement dévié. Je dois revenir à la base, au centre, au cœur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pas Paul, pas Apollos, pas Céphas. Jésus-Christ, tout simplement. L'ironie du christianisme, c'est que nous sommes appelés à nous glorifier d'une œuvre à laquelle nous n'avons pas contribué. Ils étaient fiers de ce qu'ils étaient comme Église, mais nous sommes appelés à être fiers de Christ. Amen? De Jésus-Christ. C'est là qu'est censée se trouver notre fierté. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas se réjouir de ce que Dieu fait dans l'Église. Et moi, je me réjouis de ce que Dieu a fait à travers l'espoir. Mais de dire que ça va me permettre d'élever cette Église-là dans mon cœur au-dessus d'autres Églises, ou de faire des clics parce que mon ministère va mieux que celui-là, mon groupe va mieux que celui-là, ma famille, regarde ma famille comparée à celle de ce frère-là, de cette sœur-là. Paul dit, vous avez perdu le cœur. Christ, sagesse et puissance de Dieu, le centre du christianisme. C'est fascinant, on est au tout début de la lettre. Il y a des divisions dans l'Église. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Moi, ce prédicateur-là, c'est lui qui sait comment prêcher, blablabla. Puis Paul dit, attendez, là, ce qui doit nous captiver, ce qui doit être notre fierté, c'est le plan caché de Dieu qui a été révélé en une personne. Une seule personne devrait être prononcée sur nos lèvres et vraiment nous exciter. Vraiment nous donner le goût d'en parler. C'est Jésus-Christ. Paul dit à cette église, vous vous divisez sur des questions de préférence. Vous avez tout faux. Personnellement, tout ce que je vous ai prêché, c'est Jésus-Christ. Regardez 1 Corinthiens 2:2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'avais un seul agenda. Je ne veux pas partir de là et que vous disiez, moi, c'est Paul qui m'a baptisé. J'ai essayé d'en baptiser le moins possible. Personne ne pourra après ça dire, écoutez, là, asseyez-vous, moi, j'ai été baptisé par Paul. T'sais. Fait que moi, je sais ce qui est sage. Non, je vais en baptiser le moins possible. Ces mains-là ne sont pas magiques. Moi, là, non, il n'y a rien là. C'est Jésus-Christ. J'ai voulu connaître parmi vous seulement Christ et Christ crucifié. Et pourquoi ça? Parce que c'est la puissance de Dieu. Je ne vous ai pas prêché Paul, j'ai prêché Christ. C'est lui qui est le centre de l'Église, c'est lui qui est le centre de la foi chrétienne. C'est lui l'arme secrète de Dieu. C'est par lui que le miracle s'opère, c'est par lui que les Églises viennent au monde, les chrétiens viennent au monde. C'est par lui que Dieu se réconcilie avec le monde. C'est par lui que Dieu sauve. des êtres faibles. L'ironie et la beauté de la puissance de l'Évangile, c'est que Dieu prend les choses folles de ce monde, comme vous. Comme vous. Il y a une personne qui ne dort pas ce matin. Elle est supposée être insultée. Comme moi. Dieu prend les choses faibles. Je ne veux pas vous fâcher, mais il y a quelques gens brillants ici, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Puis des super vedettes, là, il n'y en a pas beaucoup ici. Hey, je vous fais une confession que tous les pasteurs ont commis ce péché-là. On s'est dit, hey, si lui pouvait se convertir, tu sais, une star, là, oh, ça serait puissant. Quelle bêtise! Il n'y a pas de puissance dans la conversion d'un individu. La puissance est en Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul s'adresse à une église qui se croit mature, mais qui en fait est partie dans une dérive. Et cette dérive-là va se traduire dans sa manière de vivre, dans ses choix moraux. Ça va devenir scandaleux, plus on va étudier la lettre. Ça va aller très, très loin. Et ce que Paul fait, c'est qu'il ramène l'église à l'Évangile. Vous savez, lorsqu'on vous dit qu'on veut être une église qui est centrée sur l'Évangile, lorsqu'on vous dit que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le début et c'est toute la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement le début. Mais regardez ce que Paul fait avec une église qui se dit, « Non, non, mais nous, on connaît la Bible. Nous, on connaît la Bible. Écoute, on a des enseignants ici. Là. Pff, des docteurs de la parole. Là. Nos ministères, tu devrais venir écouter notre louange. Man, ça décolle. Le gars, il touche la guitare, puis on est parti au septième ciel. C'est incroyable. Quand on prend le repas du Seigneur, là, on est à moitié sous toute la gang, mais c'est la fête. C'est incroyable. » Tu sais. Paul les ramène à l'Évangile. « Vous avez perdu l'essentiel. Vous êtes en train de devenir fous. » Parce que vous avez perdu Christ de vue. Parce que Christ est notre puissance. Jésus, c'est le underdog de Dieu. Jésus, c'est le plan subversif de Dieu. Jésus, c'est ce que personne n'avait vu venir. Ni les Juifs qui avaient la révélation de Dieu, ni les Grecs qui supposément avaient la sagesse. Personne n'avait vu venir Jésus. Parce qu'il est, il est l'arme secrète de Dieu. Voyez-vous, le plan de Dieu pour transformer l'humanité, le plan de Dieu pour faire de nous de belles et bonnes personnes, le plan de Dieu pour nous amener à vivre en harmonie, le plan de Dieu pour que nous soyons heureux, le plan de Dieu pour que l'ordre qu'on avait dans le Jardin d'Éden soit rétabli parmi les hommes. Que Dieu soit Dieu, que nous soyons ses créatures belles et bonnes les uns envers les autres. Son plan n'est pas un programme d'amélioration personnelle. Son plan, ce n'est pas d'établir une église qui va être incroyablement compétente et douée. Son plan, ce n'est pas les grands, les sages de ce monde. Son plan, ce n'est pas d'avoir un gouvernement parfait. Ce n'est pas les développements technologiques ou scientifiques qu'on peut réaliser. La science et la technologie sont entièrement tributaires du cœur qui est en train de les opérer. Son plan, ce n'est pas telle ou telle église, tel ou tel prédicateur. Son plan, c'est une personne. Une seule personne. Une seule personne. Et quand on commence à avoir un orgueil mal placé dans notre vie personnelle, dans notre foyer, dans notre ministère, dans notre église, on est en train de ravir la gloire du plan de Dieu. Parce que c'est une seule personne. Et personne ne l'avait vu venir. Ni les Juifs, ni les Grecs. Ils étudiaient les prophéties. Ils n'ont jamais vu venir Jésus. Ils étaient là au milieu d'eux puis ils disaient, « Hey, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive le Messie. Hein? » Non, mais c'est parce qu'il ressuscite des morts. « Hey, je ne sais pas quand est-ce... » Non, on va le crucifier, celui-là, c'est clair, ce n'est pas lui. Paul dit, « Pour les Grecs, tu leur annonces l'Évangile. » Un Dieu qui vient, s'incarne, vit parmi les hommes. Vous savez, les Grecs avaient des dieux très... C'était viril, c'était très viril. Là, le Dieu de la Bible envoie son fils qui doit se faire arrêter, se faire crucifier. Vous dites, c'est l'échec total. Là. C'est comme plus pathétique que ça, ça n'existe pas aux yeux des Grecs. Comprenez? Quand je parle avec des amis qui sont musulmans, puis je leur dis, non, Jésus est mort sur la croix. C'est pas possible. C'est une idée qui peut pas... Ça n'a aucun sens. Dieu n'aurait jamais donné son fils pour qu'il meure sur une croix. Saisissez pas la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Vous C'était absolument inattendu. Jésus apparaît, il est la puissance de Dieu, versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent de la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Ceux pour qui le message de l'Évangile est devenu une mélodie. À un, c'est un scandale, à l'autre, c'est de la folie. Et à certains, ça devient une mélodie. C'est ceux qui sont appelés. Et là, tu te dis, mais waouh! Quel plus beau message que le message de l'Évangile. Un Créateur qui nous a aimés jusqu'à venir mourir sur la croix pour nos péchés. Qui nous sauve malgré nous dans sa grâce et sa bonté. Qui n'a pas fait de nous des automates, simplement des animaux. Non, non, on a la conscience de l'être, on prend des décisions, on fait des bons coups, des mauvais coups, puis tout d'un coup, tu réalises que malgré tous tes mauvais coups, il veut te faire grâce. Là, tout d'un coup, ce qui semble être de la folie, un délire, quelque chose de pathétique, devient mélodieux à ton oreille. Et on voit dans l'Évangile la sagesse de Dieu que personne ne pouvait inventer de lui-même. C'est un message trop grand, trop beau pour que Hollywood l'ait conçu. Au contraire, c'est même intéressant d'étudier toutes les histoires de rachat, de rédemption qu'il y a dans plein de films américains, qui finalement reprennent le pattern du salut, de la rédemption, du sacrifice, du sauveur sacrifié. Jésus vient et il nous offre pas un programme d'amélioration personnelle, ni des rituels religieux, non pas une sagesse qui nous permette de devenir plus sages. Bien que c'est tout là, hein, Dieu, Jésus nous donne le repas du Seigneur, on se fait baptiser, quand on marche avec lui, on apprend, on devient plus sage. C'est pas ça le programme. C'est pas ça le programme. Ce qu'il nous donne, c'est le salut. C'est lui la puissance. Il vient accomplir ce que tu pourras jamais accomplir. Et ça, ça devient ta joie, ça devient ton repos, ça devient ta paix. Et si tu saisis ça comme il faut, je veux dire, pourquoi est-ce que tu te vanterais d'être mieux qu'un autre? Que ton église est meilleure qu'une autre église? Que ton ministère est plus grand que celui-là? Ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie, tu l'as reçu comme un cadeau, une grâce. Tu n'as aucun mérite. Tu es avec des collègues de travail, il y a des compétitions avec les collègues de travail. Tu te dis, ben, je pense que je suis plus compétent que lui. Parfait. Mais ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie, tu n'as aucun mérite. Tu l'as reçu, c'est une faveur de Dieu. Fait que tu vas aller dealer, adresser cette question-là avec humilité. Parce que le cœur de ton identité est pure grâce. Tu es peut-être le meilleur ingénieur de la place, tu es peut-être la meilleure infirmière, le meilleur infirmier, le meilleur policier de la place. Peu importe ce qui définit fondamentalement ton identité, tu l'as obtenu par pure grâce. Ça, c'est le cœur de ton identité. Après, le reste est secondaire. Ah, oh, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur. Et ta valeur est en Christ, mon ami. Elle est en Jésus-Christ. On n'a plus aucune raison de se vanter puis de faire de la compétition simplement parce qu'on connaît Jésus-Christ. L'Église a un message qui est incroyablement subversif. C'est un message qui n'a aucun sens à celui qui n'est pas appelé. Mais il faut le proclamer parce que c'est en le proclamant que ceux qui sont appelés vont se réveiller. Et le message va devenir mélodie dans leur cœur. J'écoute tout ce qui circule en termes de philosophie dans la culture, puis il n'y a rien de comparable avec l'Évangile. Et vous savez, il y a un courant actuellement chez des intellectuels en Occident qui commencent à s'intéresser plus sérieusement à l'Évangile. Le dernier qui me fascine, c'est Richard Dawkins, un des athées les plus connus au monde, qui maintenant se dit culturellement chrétien. Donc, il est complètement à côté de l'Évangile, comme Jordan Peterson. Pas saisi l'Évangile du tout, d'accord? Et pourtant, il y a des fruits que l'Évangile a apportés dans la culture occidentale où il dit, oh, il ne faut pas perdre ça, les amis, là. Il ne faut pas perdre ça, les amis. Mais il lui manque encore l'élément révolutionnaire, subversif, qui te vire bout pour bout, littéralement, te transforme de tout en tout, parce que ta perspective change complètement. L'Église est faible en elle-même. Paul dit, c'est ça la beauté de l'Évangile, c'est que lorsque je vous regarde, je ne suis pas tellement impressionné. Moi, j'aime ça, ça enlève ta pression, sérieux. Si je vous disais, vous êtes capable, il faut qu'on aille sauver la terre, ce serait un autre game. Et Paul regarde l'Église et il dit, « Ouais, je sais, vous avez reçu beaucoup de dons, tout ça, mais sérieusement, il n'y a pas beaucoup de puissants parmi vous. » Et la vérité, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Hein? Si vous étudiez l'histoire de l'Église à travers 2000 ans, il y a toujours plus de pauvres, moins instruits, moins éduqués dans l'Église que dans la population en général. Toujours. Bien, peut-être parce que le message de l'Évangile est plus accueillant que la population en général. Ça doit être un facteur. Mais je pense aussi que c'est parce que Dieu aime prendre les choses faibles pour se glorifier, dont je suis le premier. Et ça, c'est glorieux, ça, c'est beau. Et cette Église-là avait perdu ça de vue, elle avait perdu le centre, elle se trouvait forte, elle se trouvait belle, elle se trouvait exceptionnelle. Mais elle est faible en elle-même. Est-ce que toi, tu as perdu le focus de Christ? Est-ce que tu as perdu ce focus sur la personne de Jésus-Christ? Est-ce que nous, comme Église, 65 ans, est-ce qu'on a perdu le focus? Je pose la question honnêtement. Peut-être que la réponse est oui. Peut-être que la réponse est oui. Peut-être qu'on a perdu le focus après 65 ans. Et Christ n'est pas au centre. Est-ce que cette Église s'appuie sur ses dons, ses talents, ses ministères, ses prédicateurs, son bâtiment, ses accomplissements? Toi, personnellement, dans ta vie, sur quoi est-ce que tu t'appuies quand tu commences ta journée? Sur tes dons, tes talents, tes compétences? Tu dis, Seigneur, on va en faire une bonne aujourd'hui, je vais livrer, tu peux rester à la maison, I take charge, je m'en occupe. Ou est-ce que tu commences la journée en disant, merci Seigneur pour tous les dons, les talents que tu m'as donnés, ma puissance n'est pas là, elle est en Jésus-Christ. Amen? Est-ce que tu as perdu le focus? Ça se peut que les péchés de l'Église de Corinthe viennent te troubler profondément dans les prochains mois. Je te dis, ça se peut que tu sois bouleversé et tu dis, je pense qu'il y a de ça en moi. La réponse, ça va toujours être Jésus-Christ. Reviens à Christ. Parce que l'arme secrète de Dieu pour transformer l'humanité, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Et je termine avec ceci, parce qu'il y a un passage qui est tellement beau, je veux juste qu'on voit un peu les éléments que Dieu nous apporte à travers Jésus-Christ. Jésus, ta sagesse, ta puissance, ta justice, ta sanctification, ta rédemption. Regardez les versets 30-31. 1 Corinthiens 1, 30-31. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, pour notre bénéfice, sagesse, justice, sanctification, rédemption. » Christ est ta sagesse et ta puissance. Quand tu fais face à des épreuves de la vie, à des difficultés, puis tu cherches, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu tournes vers Christ, tu dis, Seigneur, je retourne à l'Évangile, parce que j'ai besoin de savoir quoi faire et j'ai besoin de ta puissance pour le faire. Parce qu'il va y avoir de l'abnégation, il va y avoir des renoncements, il va y avoir du don de soi, il va y avoir un désir de sainteté que je n'ai pas en moi, je ne le sens pas en moi, mais en toi, je l'ai, en toi, je vais trouver la sagesse. Pour savoir quoi faire, comment agir. Ta justice, ta sanctification, ta rédemption, ta libération. C'est ça la beauté de l'Évangile, c'est qu'en découvrant Dieu à travers l'amour de Jésus, à travers l'humilité de Jésus, à travers la spiritualité de Jésus, à travers son hospitalité, alors qu'il accueille les plus grands des pécheurs, les personnes les plus faibles, nous découvrons et nous apprenons la sagesse qui vient de Dieu. Ta justice. T'es saint en Jésus-Christ. Dieu te regarde comme juste. Qu'est-ce que ça change concrètement, ça? T'es au travail, t'es avec des amis, t'es dans ton couple, puis vous avez un débat. Et t'es traité injustement. Tu retournes à l'Évangile. Avant de te lancer dans le débat puis de dire, regarde, j'ai juste besoin que tu m'écoutes parce que j'ai la vérité. Je ne veux pas te le dire, mais t'es vraiment imbécile dans ton argument. Peux-tu la fermer? Je vais t'aider à voir la lumière. Mais tu retournes vers l'Évangile. Je te dis, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Tu retournes vers l'Évangile. L'Évangile te dit quoi? Tu es un pécheur qui avait besoin de la grâce pour être justifié devant Dieu. C'est Christ qui meurt à la croix qui te déclare juste. On part de là ensemble. Par pure grâce, tu as été justifié. Tu n'as pas besoin de te justifier maintenant. Tu n'as plus besoin de te justifier. Je n'ai pas besoin de gagner l'argument. Je n'ai pas besoin de gagner le débat. Aux yeux du juge des juges, aux yeux du Dieu des dieux, je suis déjà déclaré juste. Je peux perdre tous les arguments, je peux passer pour un tata. Les gens peuvent débattre avec moi et dire, ah, j'ai gagné ce gars-là, il n'est pas capable. Moi, je sais devant Dieu que j'ai été justifié. Je m'en vais au ciel. Je n'ai plus rien à défendre. Si je le défends, c'est pour le bien, pour annoncer l'Évangile. Je vais le faire avec grâce, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà réalisé que votre justification en Jésus-Christ vous permet de ne pas avoir à vous justifier tout le temps, à gagner des débats, parce que ton identité ne dépend pas de ce débat-là, de cette conversation-là. Tu as déjà été fait justice en Jésus-Christ. C'est pas grave que les gens me regardent et ils ne comprennent pas qui je suis puis ils me jugent injustement. Ça a plus ou moins d'importance. Oh, je sais, on est pécheurs. Je comprends. Mais retourne à l'Évangile, retourne à la grâce. Retrouve le focus en Jésus-Christ. Il est ta sanctification. Tu es consacré, tu as un autre appel. Lorsque tu te couches le soir, tu te lèves le matin, est-ce que tu es conscient de ton appel? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Mais si le message de l'Évangile est devenu une mélodie dans ton oreille, si tu dis « Oui, j'ai besoin du salut en Jésus-Christ, je veux être un chrétien, je suis un enfant de Dieu », ta vocation est là. Quoi que tu fasses dans la vie, que tu te maries, que tu sois célibataire, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants, que tu aies tel ou tel type d'emploi, telle ou telle carrière, toutes ces vocations-là sont secondaires derrière l'appel principal de ta vie. L'appel principal de ta vie qui est « Suivre Jésus-Christ pour la gloire de Dieu ». Tu as été sanctifié. Tu es au cégep, tu es à l'université, tu vois toutes sortes de courants. Tu es au secondaire, tu entends des choses, puis là, tu as comme un malaise. L'Évangile est petit, tu dis, le christianisme, oui, mais dans le fond, c'est peut-être dépassé, tu sais, il y a toutes sortes de tendances, tout ça. Les gens parlent du christianisme un peu avec mépris, c'est une vieille patente, tout ça. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as oublié ta vocation. Tu as oublié l'Évangile. Si tu retournes à l'Évangile, tu vas dire, attends un peu. Dire que le christianisme, c'est un scandale, c'est ridicule, c'est de la folie, c'est une vieille histoire, celle-là. Les chrétiens ont quand même bouleversé la terre avec le message de l'Évangile. C'est pas quelque chose de nouveau, là. Si tu es au cégep, tu dis, écoute, moi, c'est vraiment difficile dans ma génération, et c'est difficile dans votre génération, mais si tu dis, moi, c'est vraiment difficile, comme ça ne l'a jamais été. Pardon? Mais non, l'Évangile a toujours été méprisé, a toujours été méprisable, a toujours passé comme une affaire de fou, jusqu'à temps que l'Évangile devienne une mélodie dans ton cœur. Est-ce que tu as oublié ta vocation? Tu es chrétien. Tu es au cégep, à l'université, pour ouvrir la bouche, pour annoncer l'Évangile. Et la majorité des gens vont mal réagir. C'est bon pour toi, tu as besoin de cette béquille-là. Je sais, t'es faible, c'est beau, bravo. J'ai beaucoup de respect pour les gens comme toi. Tu sais. Oui, mais tu le dis, le message. Parce qu'il y a un moment où tu vas rencontrer quelqu'un, et ce message-là va être une mélodie. Il va dire, attends. J'ai toujours cherché ce message-là. J'avais pas de mots, je savais pas où, je savais pas c'était quoi. Parle-moi plus de ça. Parce que tu ne me parles pas de toi, tu me parles de Jésus-Christ. C'est ta vocation, c'est ton appel. Tu es sanctifié en Jésus-Christ. C'est ce qu'elle est, l'Église. Imaginez avec moi que toutes les églises évangéliques du Québec retrouvent le focus. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Imaginez avec moi que toutes les églises évangéliques du Québec retrouvent le focus sur Jésus-Christ. On connaît notre identité. On sait qui on est en lui. On sait qu'on n'a pas besoin de se justifier. On sait que notre message est une folie, un scandale pour ceux qui ne saisissent pas l'Évangile. Mais on sait que c'est le plan de Dieu pour le bien de l'humanité. Imaginez que l'Église de l'espoir retrouve à 100% son focus. Imaginez ce qui pourrait se passer. Si demain matin, en allant travailler, en allant à l'école, en retournant dans notre foyer, on était vraiment fiers. Pas d'être à l'Église de l'espoir, d'être en Jésus-Christ, mais vraiment fier de ça. Tellement fier que même si on n'était pas compris, on ouvrirait la bouche pour le dire. Imaginez un instant si vraiment on marchait rempli par l'Esprit. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous, les amis. Le Seigneur va nous mettre au défi à travers cette série-là de voir si on a perdu le focus. Christ est notre rédemption. C'est ce qui est dit. Vous savez, c'est quoi le mot « rédemption » En grec, ce qui est là, c'est « libération ». Ça représente lorsqu'on rachète un esclave pour le libérer. D'accord? C'est ça le mot qui est là. Imaginez si l'Église de Jésus-Christ au Québec, si l'Église de l'Espoir, cette semaine, marchait comme des gens qui ont été rachetés, libérés des esclavages de leur vie, libérés de l'esclavage du péché, libérés de l'esclavage d'une pensée qui ne connaît pas Dieu. Mais au contraire, si on allait dans le monde en disant « J'aimerais te parler d'un Dieu qui t'aime. J'aimerais te parler d'un Dieu qui veut te faire grâce. Et je ne me vanterai pas, je ne te dirai pas que je suis meilleur qu'un autre. C'est par pure grâce le message que j'ai pour toi. Imaginez un instant si toute l'Église du Québec se levait comme un seul homme, sans rivalité entre des églises, sans rivalité entre des ministères, sans rivalité entre chrétiens. Si tous les couples chrétiens à la maison mettaient de côté leur bisbille pour vivre dans leur identité devant leurs enfants. Imaginez si on retrouvait la foi en Jésus-Christ. Toi qui as arrêté de prier pour tes parents qui ne sont pas au Seigneur, pour tes enfants qui ne sont pas au Seigneur, toi qui as arrêté de livrer un combat contre tel ou tel péché dans ta vie parce que tu as perdu de vue ton identité, toi qui es là et qui porte de l'amertume dans ton cœur parce que tu es déçu de l'Église, parce que l'Église est imparfaite, toi qui te fais un point d'honneur d'être de telle ou telle Église ou tel prédicateur ou tel prédicateur, imaginez si on perdait tout ça de vue complètement et on gardait le focus seulement sur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut faire. Avec l'espoir, mais avec toutes les églises du Québec. Et je vous invite, avec Paul, à rendre grâce à Dieu pour l'Évangile et tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent au Québec, mais à prier avec nous pour que Dieu vienne visiter le Québec et que l'Église de Christ retrouve son focus sur Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence parce qu'on a besoin que tu nous ramènes à la maison. On a besoin, Seigneur, que tu ramènes notre focus sur toi. Tellement facile pour nous de regarder à nos compétences, nos capacités, notre histoire, se distraire de toi, se confier en nous. Mais en fait, c'est parce qu'on ne croit plus en toi. Tu n'es pas au centre, tu n'es pas notre gloire, tu n'es pas notre fierté, Seigneur. Pourtant, tu es, Jésus, l'arme secrète de Dieu pour le bonheur des hommes, pour la gloire de Dieu. Tu es, Jésus, l'âme secrète de l'Église. Lorsqu'on te contemple, lorsqu'on est émerveillé par ta gloire, Seigneur, nous devenons sages. Lorsqu'on te contemple, lorsqu'on est émerveillé par ta gloire, nous devenons généreux, nous devenons humbles. Lorsqu'on te contemple, lorsqu'on est émerveillé par ta gloire, Seigneur, nous allons chercher cette puissance de l'Esprit pour vivre comme des hommes et des femmes libérés de l'esclavage du péché. Puissants en Jésus-Christ. Sois béni, Jésus. Amen.